Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Ce jour dans l'histoire que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est le 11 mai 330, parce qu'il faut bien commencer par une date. Portons-nous sur les rives du Bosphore. Ce jour-là naît une ville. Ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à la naissance d'une ville, et pas seulement d'une ville, mais d'une capitale, d'un empire et même plus d'une civilisation. Ce jour-là naît Constantinople, et le 11 mai 330, de grandes fêtes sont organisées pour la dédicace de Constantinople. Alors cet événement, la figure de l'empereur Constantin, sa politique dans l'Église et vis-à-vis de l'Église chrétienne, et sa politique dans l'Empire, son biographe surtout, Eusèbe de Césarée, et la définition de ce que l'on appelle le césaropapisme, tels sont les sujets que nous aborderons avec l'un des meilleurs connaisseurs de cette époque, mon invité, M. Gilbert Dagron, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres depuis 1994. Monsieur Dagron, bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Je le disais, vous êtes un grand byzantiniste. Vous êtes d'ailleurs professeur d'histoire et de civilisation du monde byzantin au Collège de France.
Je l'étais, je suis honoraire.
Vous êtes honoraire maintenant, très bien.
J'ai occupé de cette chaire pendant 26 ans.
Ah, ben ça fait un bon bout de temps. Et vous êtes aussi président du Comité international des études byzantines, membre de l'Académie d'Athènes, membre de l'Académie des Lincei à Rome et de celle de Cambridge au Massachusetts, et bien sûr auteur de nombreux ouvrages sur l'Empire romain d'Orient et sur Byzance. Nous y reviendrons. Monsieur Dagron, aujourd'hui nous allons évoquer cet Empire romain d'Orient, donc parler essentiellement du 4e siècle, mais votre érudition, elle s'étend sur de nombreux siècles, puisque la civilisation byzantine a duré au moins jusqu'au 15e siècle. Je crois d'ailleurs comprendre que vous préférez la période un peu Moyen-Âge, 7e, 11e.
Oui, du milieu, j'allais dire, de l'histoire byzantine, où tout apparaît sous une forme particulière et très cohérente avant que l'influence des Occidentaux s'exerce, c'est-à-dire avant le 13e siècle.
Donc je vous oblige aujourd'hui à parler du 4e siècle, veuillez m'en excuser. J'espère qu'on aura d'autres occasions de parler de Byzance. Monsieur Dagron, l'un de vos livres, un gros ouvrage, très documenté, très fourni en explications et en sources historiques, s'intitule « Naissance d'une capitale, Constantinople et ses institutions de 330 à 451 ». Il est paru au PUF en 1974. Alors, pour commencer et avant d'évoquer la grande figure d'Eusèbe de Césarée, rappelons brièvement comment Constantin est-il devenu empereur ?
Constantin est devenu seul empereur en mettant fin à un régime qu'on appelait la tétrarchie, c'est-à-dire le partage du pouvoir entre deux Augustes et deux Césars, qui avait pour but de délocaliser le pouvoir impérial qui était enfermé à Rome et de pouvoir mieux défendre l'Empire donc contre les invasions barbares. Et ce régime à quatre têtes était du point de vue romain difficilement acceptable et était source de guerres internes constantes. Si bien que Constantin a décidé de revenir à ce que les textes appellent une monarchie, c'est-à-dire une seule tête. Et alors on a ce paradoxe que Rome se dédouble en 330, lorsque Constantin, devenu seul empereur, décide de fonder une seconde capitale. Et il y a donc une Rome d'Occident et une Rome d'Orient, mais un seul empereur, et c'est la règle fondamentale. Ce retour à la monarchie était l'un des thèmes de la propagande constantinienne.
Mais monsieur Dagron, certains historiens disent qu'il avait choisi Constantinople pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles serait que Rome était déclinante. Vous ne semblez pas partager ce point de vue. Vous pensez que c'est plutôt parce qu'il a voulu fonder une dynastie, une monarchie et une dynastie.
De toute façon, la monarchie et la dynastie sont à cheval sur l'Occident et l'Orient. Le pouvoir unique de l'empereur s'exerce dans les deux capitales que l'on appelle assez vite, on ne peut pas dire exactement à quelle date précise, mais dans les années 330, déjà on parle de la seconde Rome, et puis ça devient la nouvelle Rome avec le déclin de Rome elle-même. Mais au début, c'est conçu comme un dédoublement des capitales pour éviter, au fond, un dédoublement du pouvoir impérial. Et il fallait une Rome orientale, peut-être parce que Rome était mal située pour lutter contre les invasions, et aussi parce que le centre névralgique de l'Empire s'était déplacé incontestablement vers l'Orient, qui était plus peuplé, qui avait moins à souffrir des invasions, qui était plus riche, avec un très grand nombre de cités très peuplées, de type romain hellénistique. Et il y avait une menace perse, puis ensuite, qui deviendra plus tard la menace arabe. Et Constantinople a été fondée exactement en Europe, du point de vue du continent, de l'autre côté du Bosphore, du côté européen du Bosphore, mais pour surveiller, j'allais dire, et régir la partie orientale de l'Empire qui avait pris une importance considérable.
Néanmoins, il existait donc une véritable capitale à l'Empire romain qui était Rome, avec le Sénat. Le Sénat avait un grand rôle, on le sait. Est-ce que Constantin va déplacer le pouvoir du Sénat à Constantinople? Comment ça va s'organiser?
Ça se passe très lentement et par étapes. Constantinople a mauvaise presse au moment où elle se construit. On pense que c'est un pari et un pari qui sera un échec. On ne croit pas que cette petite ville, Byzance était quand même une cité petite par rapport à Antioche et d'autres grandes métropoles de l'Orient, on ne croit pas à la possibilité d'y implanter une population tout d'un coup énorme et à y transplanter des institutions vraiment romaines. Donc le premier Sénat, puisque vous parliez du Sénat, qui s'instaure là, est un Sénat de seconde zone.
Un Sénat bis.
Voilà, une sorte de Sénat où on invite à siéger quelques sénateurs
qui déménagent, qui vont quitter Rome pour habiter là-bas.
Qui viennent et qui s'installent à Constantinople. Ils sont relativement nombreux, mais la grande masse des sénateurs vient ensuite des élites curiales, c'est-à-dire des élites des grandes cités provinciales de l'Orient et même un certain nombre de parvenus. C'est une chose que l'un des auteurs du temps, Libanios, critique beaucoup, ce côté nouveau riche de Constantinople, bien sûr.
Gilbert Dagro, vous avez dit tout à l'heure que Constantin est devenu empereur en éliminant les autres. Qui a-t-il éliminé particulièrement?
Le dernier, disons, c'est Licinius. Licinius, à qui il a disputé Byzance, qui a résisté pendant longtemps à un siège. Et c'était le dernier représentant. Il avait d'abord éliminé Maxence en Occident, mais Licinius en Orient. Et il devient à ce moment-là seul empereur. Et cette monarchie trouve un site qui est éponyme, j'allais dire, puisqu'il donne tout de suite son nom à la nouvelle Rome. Et le nom mystique de Anthousa, qui est le nom mystique transposé en grec de Flora.
Flora, c'est Rome, et Anthousa, c'est Constantinople.
Exactement. Et il faudra tout de même un siècle, et un peu plus même, pour que l'assimilation se fasse complètement. Et sautons au VIe siècle, Justinien, dans un texte de loi, dit Rome, virgule, je veux dire la Rome d'Occident et la Rome d'Orient, c'est-à-dire qu'on a l'idée d'une espèce de fusion entre ces deux capitales, non pas un dédoublement, mais une espèce d'union mystique, qui, avec des rites, des rituels de fondation qui sont les mêmes et avec un arrière-fond idéologique qui est un peu le même. Simplement, Rome a toute une histoire et Constantinople souffrira de ne pas avoir la même histoire que Rome. Il y aura donc un difficile rattrapage et donc une orientation vers l'idéologie. Rome n'a jamais connu l'idéologie qu'a connue Constantinople en disant qu'elle est romaine. Non, c'est faute d'avoir une histoire que tout d'un coup, les idées sont venues combler le vide.
Alors encore un petit mot, s'il vous plaît, Gilbert Dagron. Revenons au 11 mai 330. On fête la dédicace de Constantinople. Ça veut dire quoi, dédicace? C'est la fondation, c'est l'inauguration. Considère-t-on la même date pour la fondation?
Non, il y a probablement une première date qui est 329 et une seconde date qui est 330 ou 328, 330. On ne sait pas très exactement. Mais il y a d'abord un rituel de sacralisation, si vous voulez, du territoire sur lequel la ville va être construite. Donc, on peut appeler ça inauguratio, si vous voulez. Mais enfin, les termes nous manquent parce que les choses se passent de façon imprécise. Mais de toute façon, en effet, en deux temps. Et l'inauguration, lorsque les murailles sont à peine sèches, j'allais dire, quand il n'y a pas encore d'eau dans la ville, quand il n'y a pas encore de maisons, ou pas beaucoup, c'est un deuxième temps avec, évidemment, tout un accompagnement de fêtes dans un hippodrome qui a été complété, mais qui existait déjà et qui remonte à Septime Sévère. Mais enfin,
qui est un lieu important pour
Constantinople. C'est un lieu important.
C'est là que le peuple se retrouve.
Voilà. Oui. Et les fêtes d'inauguration ont lieu à deux endroits assez différents, à la colonne, qui existe toujours, mais sans l'Apollon transformé en Constantin qui le surmontait avec une tête radiée, et puis l'hippodrome, car c'était une tradition que toute cité où séjournait, même provisoirement, un empereur, les résidences impériales, si vous voulez, comme Nicomédie et d'autres, étaient pourvues d'un hippodrome pour permettre ce renouvellement, car l'hippodrome, c'est une course de chevaux, mais qui renouvelle la tuquet romaine de l'empereur qui assiste à ses cours et à ses courses et qui est le seul à pouvoir les organiser.
Gilbert Dagron, je vous propose qu'on marque une courte pause avant de nous retrouver pour nous interroger sur une autre question fondamentale. Constantinople fut-elle une ville païenne ou fut-elle une ville chrétienne? Car nous n'avons pas encore abordé la question fondamentale de Constantin converti, entre guillemets, au christianisme. Nous allons en parler dans un instant. Retour dans notre studio en compagnie de Monsieur Gilbert Dagron, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, byzantiniste, qui parle avec nous de Constantinople. Pour l'instant, nous en sommes à Constantinople et avant d'aborder la figure d'Eusèbe de Césarée, nous restons encore un tout petit instant sur l'empereur Constantin. Gilbert Dagron, doit-on dire que Constantin, qui s'est converti au christianisme, comme je le disais, entre guillemets, a vraiment éradiqué les cultes païens pour installer un christianisme triomphant à Constantinople et construire des églises partout. Je crois que c'est une image contre laquelle vous réagissez.
Tous les historiens réagissent contre deux tendances. L'une, à mettre en doute la bonne foi chrétienne de Constantin. Il n'y a aucun texte qui montre qu'il était resté secrètement païen. Et alors, une autre tendance qui consiste au contraire à lui attribuer tout ce qui est chrétien dans la ville et à imaginer que tout d'un coup, l'Empire se convertit. Ce qu'il y a de certain, c'est que Constantin n'a pas lancé de persécution. Il a favorisé les clercs, il a favorisé le christianisme.
Mais il n'avait pas non plus de projet de construction à tout va, d'église, de martyria, etc.
Non, à Constantinople, les temples païens, un ou deux temples païens ont été construits à l'époque de Constantin, sous son règne. Et surtout, le décor était exactement celui d'une résidence impériale de type tétrarchique avec le même urbanisme, avec des statues de dieux. On nous dit que Constantin a pillé, ce qui est vrai, les temples païens pour en prendre les statues. C'était pour la décoration et un peu partout, les temples de Rome ou de l'Orient ou de Grèce. Mais c'était pour la décoration. Et quand Eusèbe de Césarée, par exemple, dit qu'il voulait exposer à la dérision du public ces statues devant lesquelles on faisait les sacrifices, c'est un artifice de rhétorique, purement et simplement. Il s'agissait, en effet, de rassembler, j'allais dire, ce patrimoine symbolique à Constantinople pour en faire la ville impériale. Mais il n'y avait aucun désir de persécution ni de conversion forcée. Je dirais simplement que on en est, le paganisme ne veut pas dire grand-chose, c'est un mot qu'on a inventé, c'est simplement le négatif de christianisme, oui, ou de monothéisme. En réalité, on le verra à travers Eusèbe peut-être, on avait à l'époque de Constantin déjà l'idée d'une sorte de monothéisme et d'une approche nationale des divinités, c'est-à-dire que on ne voyait aucun inconvénient à honorer des dieux nationaux, syriens par exemple. Et un mouvement, on laissait faire les philosophes pour dégager l'idée de la divinité qui était une idée plutôt philosophique ou plutôt mystique avec les cultes à mystère. Donc nous sommes dans cette lignée-là, dans une lignée aussi où un grand nombre de Romains sont séduits par le judaïsme et on les appelle ceux qui craignent Dieu. Les craignants Dieu sont simplement des païens qui ne peuvent pas, à cause des règles du judaïsme, se devenir juifs de religion, mais qui se rapprochent de la synagogue incontestablement. Donc c'est dans cet ensemble que tout d'un coup, Constantin choisit incontestablement le christianisme, reçoit les conseils de quelques évêques, hésite sur son rôle, et les évêques aussi, Eusèbe le premier. Je prends un exemple, le mausolée de Constantin, dans son projet initial, qui a été corrigé par son successeur, mettait la tombe de Constantin à la place du Christ avec le cénotaphe, c'est-à-dire les tombes vives des 12 apôtres. C'est-à-dire, il y avait un désir de se diviniser lui-même, sans croire qu'il devenait un dieu, mais à travers le christianisme et également de une religion de salut qui pouvait être utile non seulement à lui personnellement, mais à l'Empire tout entier.
Voilà. Utile à lui, oui, parce qu'il avait tout de même au passage tué son fils, tué sa femme, tuer deux de ses neveux,
fait assassiner. Plusieurs, passons, mais son fils Constance II a été celui-là, précisément qui est revenu sur ce projet du mausolée. Le mausolée existait, mais à mon avis, c'est sous Constance II que les évêques ont dit non, on ne peut pas faire une église autour d'un tombeau impérial. Il faut des vraies reliques avec une vraie église. Et à ce moment-là, on a prolongé
l'église des saints apôtres, c'est celle-là,
pour faire les saints apôtres et pour y faire venir des vraies reliques de
Jérusalem. Alors, justement, comme on pouvait dire que Constantin n'a pas eu l'idée de détruire complètement le paganisme, il n'a pas eu l'idée, mais il a eu l'idée de fonder en effet une capitale pour son empire.
Chrétienne,
pas une capitale de la chrétienté parce qu'elle était à Jérusalem tout de même. Il y avait une ville chrétienne à Jérusalem.
Oui, bien sûr. Et du reste, les fondations constantiniennes à Jérusalem sont aussi importantes que Constantinople. Et Hélène aurait découvert les bois de la croix, l'anastasis, c'est-à-dire l'église de la résurrection daterait de cette époque, au moins l'idée, pas telle qu'on la voit aujourd'hui, mais presque. Donc, si vous voulez, Jérusalem existe, mais il faudra attendre la poussée arabe pour qu'elle cesse d'exister et que toutes les reliques soient rapatriées à Constantinople. Mais quand même, Constantinople est une ville chrétienne essentiellement dans la conception progressive que s'en fait Constantin, incontestablement.
En tout cas, Gilbert Dagron, je pense qu'on peut dire, et vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage, la nouvelle religion, la religion chrétienne, apparaît à Constantin comme nécessaire au bien public, à la stabilité de l'Empire.
Oui, et c'est équivoque. Du reste, je veux dire, c'est l'origine de beaucoup d'équivoques. On ne peut pas, à l'époque, concevoir un culte, surtout un culte monothéiste, c'est-à-dire en principe exclusif des autres, qui ne soit pas impérial. Du moment que ça touche à la chose publique, au salut commun, à l'humanité, à la légitimité romaine, évidemment, l'empereur se doit d'être le chef de cette chrétienté. Et Constantin se considérait incontestablement comme le chef de la chrétienté et après lui tous les empereurs jusqu'à la fin de Byzance. Là est l'équivoque, si vous voulez. C'est-à-dire que à partir du moment où un empire est chrétien, son universalisme repose sur le christianisme et par conséquent, c'est l'empereur et non pas les prêtres, forcément, ou le patriarche qui a un rôle, bon, ce serait trop
complexe,
difficile.
Voilà, enfin,
ça n'est pas le pape, n'est-ce pas du tout. D'abord parce que le pape est tout seul et il n'y a plus, au bout de quelques temps, de pouvoir séculier en Occident. Tandis qu'en Orient, l'empereur est là, chef de la chrétienté, et le patriarche est chef de l'Église, relayé, parce que la structure est beaucoup plus démocratique en Orient, par toutes sortes d'évêques qui ont un rôle de conciliaire.
Alors, puisqu'on parle d'évêques, justement, on va en venir à la figure d'un des grands évêques de l'époque, contemporain de Constantin, c'est l'évêque de Césarée, Eusèbe de Césarée. Alors, on va évidemment parler de lui parce qu'on ne peut pas parler de Constantin. Il a écrit une vie de Constantin, il a écrit aussi des louanges de Constantin pour les 30 années de son règne, qu'on appelle les Triaconda Hereticos, que les éditions du Cerf ont réédité récemment.
Oui.
Et alors, du coup, on a fait d'Eusèbe de Césarée un écrivain et même un théologien panégyriste de l'empereur. Et on oublie de penser qu'au fond, il faut faire une différence, vous dites, entre ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. C'est-à-dire, ce qui est plus intéressant à étudier, c'est ce qu'il n'écrit pas. Il faut lire entre les lignes, n'est-ce pas?
Alors, il faut lire entre les lignes, en effet. Un rhéteur et le panégyrique dont vous parlez, c'est un vasilikos logos, c'est-à-dire un discours impérial. Par excellence. Alors, que dit-on quand on est rhéteur à un empereur qui est avare, par exemple? On lui dit, toi qui es la générosité même, tu pourrais faire ci, ça. C'est-à-dire qu'il faut évidemment percer toutes ces petites ruses de la rhétorique. Et j'allais dire de la même façon, lorsque Eusèbe dit à Constantin, tu es un prêtre à ta manière, c'est une rhétorique du quasi. Et
voilà,
on ne peut jamais être sûr qu'il pense réellement qu'il y a un sacerdoce royal, encore que le terme existe en théologie. Bon, le sacerdoce royal, c'est plus compliqué, c'est pas l'empereur, mais ça peut être utilisé pour l'empereur. On peut se dire que Constantin se considérait comme le chef des évêques, comme il était le chef des préfets, tout simplement, en lui disant, oui, tu es un presque prêtre, un quasi-prêtre, ou un prêtre, non pas du dedans, mais du dehors. C'est une manière de lui dire, attention,
il y a des limites, voilà.
C'est possible, c'est mon interprétation. Je sais que ça n'est pas celle de tous, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que Constantin imaginait que l'Empire devenant chrétien, il était le chef de l'Église, incontestablement, et que les prêtres, qu'il a beaucoup favorisés, étaient ipso facto des sortes de fonctionnaires. pour le bien commun, bien entendu. Et en plus de ça, comme les hérésies ont éclaté tout de suite, et que contrairement à ce que nous disent les histoires de l'Église, l'orthodoxie n'est pas un long fleuve tranquille avec des hérésies à droite et à gauche, mais c'est au contraire plein de méandres, etc. On a demandé très vite, avec l'affaire du donatisme par exemple, à Constantin de trancher. Donc, comment ce serait-il pas
considéré lui-même
érigé,
voilà,
en responsable
chef de chrétienté.
Donc, il a fallu poser, j'allais dire, un certain nombre de frontières, des frontières que Constantin lui-même a acceptées. Il assistait sans intervenir au concile, etc. Mais il y avait des moments où il fallait choisir entre des évêques qui n'étaient pas d'accord, et là, pour sauver l'unité de la foi, l'empereur intervenait. Et c'est arrivé pendant tout l'Empire byzantin. On a toujours reproché à l'empereur de se mêler de ce qui ne le regardait pas, mais quand il disait « débrouillez-vous entre vous », immédiatement
pire.
On disait « mais non, ton devoir, c'est évidemment d'établir l'unité de la foi
». On va juste reciter quelques petites dates pour resituer Eusèbe de Césarée. Donc Césarée, c'est en Palestine. On ne sait pas si Eusèbe est né ou non en Palestine. Dans les années 260-270, évidemment, après Jésus-Christ. Il va d'ailleurs mourir 2 ans après Constantin, c'est-à-dire en 399. Il a été élu évêque de Césarée. Il est très réputé. C'est un écrivain et un théologien de grand renom. Et par générosité, il a accueilli, où il a en tout cas pas désavoué Arius, ce qui fait qu'il a été un peu soupçonné d'hérésie arienne. Et quand Constantin a convoqué le concile de Nicée en 325, il y est venu un peu en position délicate et un peu en accusé. Et là, que s'est-il passé, Gilbert d'Agron? Il a été...
Écoutez,
s'est bien débrouillé, il s'est fait valoir.
Eusèbe de Césarée a été considéré comme un hérétique dans l'Église.
Oui, complètement, oui.
Dans toute la tradition, en tout cas, au point que on a affirmé que ce n'était pas lui qui avait baptisé Constantin,
mais c'est une légende plus tardive après qui s'est regreffée.
C'est ça, mais les légendes tardives pour le baptême de Constantin, ça va jusqu'à l'évêque gaulois. Les Français ont toujours réclamé d'avoir converti à travers les Gaulois, puisque Constantin était en Gaule à l'origine, voilà. Donc, il y a là-dedans beaucoup de légendes. La position d'Eusèbe de Césarée, retenons simplement, ce nom est un peu compromettant. Et que c'est nous qui, avec le recul et avec, une lecture théologique de toute l'œuvre d'Eusèbe, avons fait, heureusement, la gloire d'Eusèbe, qui est en effet un personnage clé. Là-bas, il est à une époque où rien n'est sûr. Quand il écrit les œuvres que vous avez citées, rien n'est sûr. Ni Constantinople, on n'est pas sûr que la greffe de Rome prenne vraiment, ni l'Empire, ni les institutions impériales, ni finalement le christianisme lui-même, qui pouvait être tout d'un coup repoussé, comme il a failli l'être à l'époque de Julien. Voilà, donc il se trouve à une époque où rien n'est sûr et où il s'agit de raccorder plusieurs cultures. Une culture romaine, la culture juive qu'il connaissait parfaitement, c'est-à-dire l'Ancien Testament, toute cette tradition-là, et une culture hellénistique qui avait beaucoup parlé justement du roi et de la monarchie. Alors, il s'agit de les raccorder, mais de les raccorder, et c'est ce que fait Eusèbe, dans une continuité historique. Non pas en disant « nous allons faire quelque chose avec ces trois éléments », mais ces trois éléments se succèdent historiquement, se combinent historiquement, et c'est la réalisation des prophéties, c'est essentiellement du prophète Daniel. Alors ça, c'est un premier point, raccorder les cultures. Cette notion de continuité aboutit du reste chez Eusèbe, et chez la plupart des apologistes chrétiens de cette époque, à une sorte de manipulation historique, car finalement, on considère que c'est Constantin qui a révélé le christianisme à l'Empire, qui a imposé le christianisme à l'Empire, mais l'Empire était prêt, depuis Auguste, à recevoir le christianisme. Et toute l'œuvre d'Eusèbe, mais d'autres aussi, tente à le montrer. pour faire coïncider, au fond, une structure politique, et ça c'est très important pour la suite, une structure politique, celle de l'Empire, à l'époque d'Auguste, avec un message religieux, une religion monothéiste. Évidemment, ça se fait avec un certain nombre de trucages qui seront de plus en plus flagrants dans les chroniques comme celle de Zeb. C'est-à-dire que Auguste aurait érigé un autel au dieu inconnu, Néron aurait été plus que tendre avec les chrétiens, disons, Philippe l'Arabe se serait converti secrètement. Le but est de faire coïncider, encore une fois, ces deux grandes structures politiques et religieuses, de manière à pouvoir créer une idéologie chrétienne de l'Empire chrétien. Voilà.
Donc la vérité historique,
oui,
on l'arrange un peu.
Et ça n'est pas sans conséquence.
Voilà.
Vous voyez, parce que si véritablement dans l'économie divine, c'est-à-dire un grand plan divin d'organisation et allons jusqu'à la fin des temps, si effectivement c'est l'Empire romain qui a été choisi, alors effectivement l'empereur a le devoir de mener le monde entier au salut. Et il a un rôle religieux éminent. Donc là, on touche à quelque chose d'extrêmement important. Tout était à réinventer à l'époque de Zeb. Et par exemple, l'endroit où il fallait placer le religieux. Comme je vous le disais, dans la conception païenne, il y avait les religions nationales correspondant à des ethnies. Cela disparaît et on considère que cela doit disparaître. Et donc, si vous voulez, l'universalité de Rome, de la Rome païenne, était politique. C'était pas un universalisme de conquête, mais de dilatation, j'allais dire, de Rome, comme civilisation, comme vertu, presque. Voilà. Et les religions, eh bien,
avaient chacune leur place. Voilà.
Elles étaient au niveau de la culture.
Oui, c'est ça.
Et il y avait des philosophes, alors il y avait des religions qui étaient plus habile que d'autres, nous dit Cels, par exemple, l'antichrétien par excellence, au second siècle. Et il est furieux, j'allais dire, contre le christianisme, parce que c'est une mondialisation indue d'un élément culturel important, le religieux. Voilà. Et alors, là-dessus, lui répondent à plusieurs siècles de distance, des gens comme Diodore de Tars, qui expliquent que le bienfait de la conversion de l'Empire s'est traduit par un christianisme qui a unifié 300 ethnies différentes. Avant, il y avait à l'intérieur des limites de l'Empire 300 ethnies avec une organisation polyade, mais aussi politique et religieuse, et que tout cela a disparu pour former une seule chrétienté.
Et c'était bénéfique pour certains et moins pour d'autres, évidemment.
Donc, si vous voulez, là, on approche d'une intégration, en tout cas, du religieux au politique très, très poussée et qui prend, avec Zeb et la théorie de Zeb, la forme d'une idéologie, véritablement.
Mais est-ce que Zeb lui-même était partisan que l'empereur devienne le chef du religieux ou est-ce que, justement, il ne remet pas l'empereur à sa place? Il lui dit « tu es comme un évêque, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Tu agis comme si tu étais un évêque, mais tu ne l'es pas, puisque tu n'as pas droit de vote. Donc, il le remet un peu à sa place. »
C'est moi qui lui fais dire.
Oui, mais enfin, les choses sont
dire.
Comme cela.
Cette rhétorique du quasi...
Du comme si,
est une rhétorique qui essaye de définir une sacralité ou une sacerdotalité même de l'empereur qui soit un peu différente de celle des prêtres. Voilà. Et à Byzance, on a vécu sur cette idée-là, qui est une idée assez forte. C'est-à-dire que le modèle religieux de l'empereur, ce sont les rois de l'Ancien Testament. Et ce sont pas les saints de l'Église.
Voilà, mais l'empereur romain, il était quasi divin lui aussi. Il était un peu célébré comme un dieu, non ?
Oui et non. Je crois que les historiens sont revenus un petit peu de ces. C'est vrai qu'il y avait une cérémonie à leur mort où un aigle, on essayait de voir leur âme sous la forme d'un aigle montant aux cieux, et puis je ne sais plus quel empereur a dit « je sens que je deviens Dieu au moment de mourir
bon, ».
Mais ça
bon
de, c'était peut-être une plaisanterie, en réalité.
Et
ça n'allait pas très loin.
Ça, ça.
Il était divus, il n'était pas Dieu.
Il n'était pas Dieu, oui, c'est ça. Il était
dans une religion monothéiste. Alors, il y avait un culte de l'empereur, mais qui était relativement limité, qu'on a eu tendance à exagérer. Alors, il était sacré, il était sacerdoce, bon, il était divus, mais le pas a été franchi lorsque, dans le domaine chrétien, on a dit, mais ne serait-il pas comme Melchisédek, alors ce fameux...
Le grand roi, le grand prêtre.
Voilà, prêtre et roi, mystérieux personnage de la Bible. Et c'est-à-dire que les références religieuses de l'empereur sont assez vite devenues l'Ancien Testament et non pas le Nouveau. Ce qui a introduit une équivoque
une
très
de
grande.
Plus.
Beaucoup
une de plus.
Plus. L'Occident aussi connaît l'Ancien Testament. Mais pour l'idéologie religieuse, là, l'Occident copie exactement Byzance. Et ça commence très tôt.
Alors, avant de poursuivre avec Gilbert Dagron, cette étude des relations entre les deux pouvoirs impériaux et le pouvoir des religieux, je vous propose de marquer une courte pause et de nous retrouver dans un instant.
L'Union européenne doit-elle s'élargir à la Turquie ? Sur les 27 membres de l'Union, 21 sont favorables, mais parmi ceux qui émettent des réserves, on compte la France. Robert Del Picchia et Hubert Haenel, sénateurs, se sont rendus en Turquie à la veille de la présidence française de l'Union européenne. Dans notre émission Éclairage, les rapports du Sénat, Robert Del Picchia, présente le bilan de l'état d'avancée des négociations d'adhésion et évoque la dégradation des relations franco-turques. L'Union européenne et la Turquie, une émission à télécharger en libre écoute et libre téléchargement sur Canal Académie.
Retour dans notre studio avec Gilbert Dagron, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et auteur d'un ouvrage qui justement nous explique en détail les relations entre l'empereur et le prêtre. L'empereur est-il prêtre ou n'est-il pas prêtre ? Étude du Césaropapisme byzantin paru chez Gallimard dans la collection Bibliothèque des Histoires. Gilbert Dagron, alors le Césaropapisme, comment peut-on le définir ?
Oh, le terme apparaît dans l'Église protestante sous la plume d'un certain Henning, un théologien protestant, de la première moitié du XVIIIe siècle.
Pas avant ?
C'est
vraiment très très tardif comme expression.
Non. Et il parle de Césaropapia, c'est-à-dire la dérivation, pour un protestant surtout, l'erreur d'un César, d'un empereur qui se prend pour un pape. Mais il ajoute un autre terme qui n'a pas eu la même fortune, qui est la papo-césaria. C'est-à-dire, il critique au même titre le pape qui se prend pour un empereur.
Oui, mais il est protestant, donc ça se comprend.
Ça se comprend, mais ça a été tout à fait vrai, au moins pendant une partie du pape Innocent III au pape Innocent IV, avec tout le conflit avec l'empereur Frédéric II.
Germanique, oui.
La papauté se considérait comme détenteur d'un pouvoir séculier et de tous les attributs de l'Empire. Donc, c'était vraiment une théocratie, si l'on peut dire, ou une papo-césaria, comme disait mon théologien protestant.
Et tous les empereurs byzantins eux-mêmes se sont-ils situés dans cette double entité, à la fois empereur et prêtre, ou est-ce qu'il y a eu des conflits très forts ?
Alors, les empereurs ont été très prudents après avoir été très imprudents. Ils ont été imprudents à l'époque de Constantin. On comprend pourquoi, tout restait encore à définir. Mais progressivement, il y a eu des limites qui ont été posées. On a, avec le pape Gélase, au 5e siècle, eu conscience tout à fait clairement que les clercs avaient un certain nombre de pouvoirs charismatiques, j'allais dire, mais il est resté quand même constamment un problème, ou plutôt deux. Le premier problème, c'est celui de l'intervention de l'empereur dans les affaires de l'Église.
Dans les questions d'Église, oui.
Et là, il faut bien dire qu'à partir du moment où on est dans un empire chrétien dont le but est de conduire le monde entier au salut, il est quand même très, très difficile
d'éliminer l'empereur, de le mettre de côté.
On n'est pas en régime de laïcité.
Mais en même temps, sur des questions dogmatiques, il est aussi difficile d'admettre.
Des questions de sacrement, voilà. Mais, alors, donc, il y a une frontière qui est très difficile à tracer, d'autant plus que l'onction est tout de même un sacrement qui n'était pas matériel jusqu'au début du XIIIe siècle en Orient, mais qui était conçu à l'image de l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'un empereur, lorsqu'il prenait le pouvoir, et parce qu'il prenait le pouvoir, était oint par Dieu directement. Alors, cette onction directe, si vous voulez, c'était conçu comme quelque chose comme une prêtrise. Mais il ne pouvait pas le dire parce que immédiatement l'Église réagissait en disant « Mais non, comme pécheur, tu es soumis à la loi et au pouvoir de lier et délier. » Donc, on a là tout un arrière-fond. Ce serait trop long de l'expliquer, mais il y a un résidu, si je puis dire. Ni l'empereur ni l'Église ont tout à fait raison, et ce problème de l'empereur en même temps prêtre est ce que j'appellerais une aporie politique, même, j'allais dire, de nos jours.
Justement, de nos jours, est-ce possible? Que se passerait-il de nos jours?
Voilà, même de nos jours, j'allais dire, le pouvoir a une sacralité particulière. Et on ne peut pas camoufler les vrais problèmes, ne pas en tenir compte. Le pouvoir est quelque chose de fondamentalement irrationnel et qui ne peut se justifier que par quelque chose comme une onction. L'onction de Dieu qui faisait les empereurs légitimes, qu'est-ce que c'était exactement? C'était une adoption par Dieu. Et ça, les textes de l'Ancien Testament sont clairs. C'est la raison aussi pour laquelle les empereurs n'ont jamais créé de dynastie en tant que telle. Ils en ont créé, mais c'était une heureuse pratique. Mais jamais il n'y a eu de droit du sang, parce que il y a une incompatibilité, si vous voulez, entre l'onction divine et le sang. Et ça n'existe pas du tout en Occident. Pas du tout. Donc, on a un souverain d'une stature vétérotestamentaire en Orient, dont l'œcuménicité repose et la légitimité repose justement par ce lien avec l'histoire de l'Ancien Testament, avec l'onction qui fait qu'il est en contact direct ou supposé direct avec Dieu. Et l'Église n'a rien à y faire. Ce n'est pas un clerc qui donne l'onction à l'empereur, contrairement au roi de l'Occident. Alors, tout ça est très compliqué. Et si je vous disais que ça avait des échos contemporains, oui, dans une certaine mesure, parce que nous avons, sur le problème de la division des pouvoirs, une approche moderne, heureusement moderne, qui sépare les deux pouvoirs, mais qui est insoutenable au Moyen-Âge surtout. Et
peut-être dans quelques traditions, encore quelques religions même, quelques cultures. Par exemple, en islam, par exemple, aujourd'hui.
Alors voilà.
Est-ce que c'est là à ça que vous pensez?
Alors, je pense en effet que nos concepts sont un peu simples et que, pour une grande part, cette division que nous faisons trop aisément entre le pouvoir religieux, excellente, mais mal analysée, je crois, entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique, repose sur le fait que le christianisme est né après l'Empire, en réalité, et que le Christ a dit « Rendez à César ce qui est à César », ce qui était une manière, et à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui était une manière d'éviter un piège que lui tendaient les pharisiens. Donc, à cette époque, pour vivre son judaïsme, le Christ a énoncé cette merveilleuse formule,
Pas de mélange avec le politique, en fait.
Voilà,
c'est ça.
Pas de mélange avec le politique.
Son conseil était très simple.
Mais il s'agit du judaïsme.
Oui, mais pourquoi ça n'a pas été suivi après par le christianisme, justement ?
Mais parce qu'il est très difficile... Alors, ça n'a pas été suivi, si vous voulez, dans la mesure où ça a été suivi, au contraire, dans la mesure où il y a un décalage historique, tout de même, entre l'Empire et le christianisme. Donc, nous avons une approche différente des autres religions du livre pour lesquelles l'islam et le judaïsme, pour lesquelles il y a simultanéité de la formation d'un État et du message religieux. Et c'est effectivement assez difficile de faire une séparation entre ces deux pouvoirs. Du reste, les autorités qui sont généralement citées, le pape Gélas n'a jamais dit qu'il y avait deux pouvoirs. Il a dit que le pouvoir était donné par Dieu sous deux formes et que ces deux formes devaient se combiner étroitement. En réalité, on a fait une théorie de quelque chose qui était... admis par tout le monde au 5e siècle déjà, que les prêtres avaient leur spécificité et dans telle matière ou dans telle autre. Mais ça ne dessinait pas une division, le moins du monde, et pendant tout le Moyen-Âge, il n'y a pas eu, évidemment, cette division dont nous nous réclamons, fort heureusement, bien sûr. Mais il faut essayer de comprendre historiquement les choses pour voir pourquoi le monde musulman, par exemple, et le judaïsme ont des approches différentes. Et également, pourquoi cette fameuse laïcité, que je préfère le terme allemand de Säkularisierung, qui est tout de même beaucoup plus riche philosophiquement, pourquoi c'est très difficile ? Et là, on peut revenir...
Pour eux, à comprendre, en tout cas, oui.
Alors, pourquoi c'est très difficile à réaliser ? Pourquoi ? Parce que, et ça... Les auteurs allemands l'ont très bien compris, la plupart de nos concepts politiques sont en fait des concepts religieux laïcisés. Et Hegel a été les premiers à dire, mais non, attention, laïciser les concepts politiques, c'est retrouver des concepts religieux sous un vernis politique, en réalité. Et c'est un peu la même chose que dit un auteur sulfureux, puisqu'il était un juriste nazi, Carl Schmitt, dont on parle beaucoup. C'est la seule chose, j'allais dire, qui soit importante et intéressante dans ce qu'il a écrit sur le sujet, c'est de reconnaître la valeur de concept théologique déguisé à un certain nombre de nos idées politiques. Voilà. Et ça nous ramènerait très facilement à Eusèbe, puisque finalement, sa théologie politique, ce qu'on a appelé comme ça, parce que ça n'était pas dans son vocabulaire, revient à ça, c'est-à-dire à essayer de fonder un grand édifice où soit intégré le religieux et le politique. Voilà.
Merci, Monsieur Dagron, de nous avoir éclairé sur cette époque complexe, sur ces questions qui sont aussi compliquées, parce que aussi toutes les époques se mélangent, mais en vérité, elles ont chacune leur particularité. Merci. Je rappelle simplement que vous avez publié de nombreux ouvrages consacrés à l'Empire d'Orient et à la civilisation byzantine, notamment « Naissance d'une capitale », on en a parlé, Constantinople, au PUF en 1974, mais aussi « Vie et miracle de Sainte-Thècle, quelques mots sur Sainte-Thècle, qui était-elle une sainte qui vous a inspiré ?
C'est une sainte qui n'a probablement pas existé. Et ce que j'ai édité est même l'œuvre d'un hérétique notoire, constitue à travers les miracles attribués à Sainte-Thècle, qui sont tous très amusants, très vivants, une sorte de chronique de la ville de Séleucie en Cilicie.
J'en profite pour dire aussi, parce qu'on n'a pas eu l'opportunité de le lire, que Constantin, faute d'avoir pu être pape, était déjà empereur, mais on en a fait un saint tout de même, et que dans la religion orthodoxe, en tout cas, on fête Saint Constantin le 21 mai.
Mais c'est le seul.
C'est
vous
le
savez
seul,
que
oui.
C'est à peu près le seul empereur qui soit devenu saint. Qu'est-ce que ça signifie du reste dans le monde orthodoxe? Il n'y a pas de procès de canonisation, mais tout le monde sait plus à reconnaître la sainteté de Constantin et de sa mère Hélène. Tandis que pour les autres empereurs, on les voyait dans une optique telle, surtout, j'allais dire, à travers l'Ancien Testament, dans un halo d'Ancien Testament, tel que la sainteté n'était pas faite pour eux.
Mais en même temps, Constantin, dans la liturgie de son office, on le rapproche de saint Paul parce que lui aussi, il a eu des visions. Il a souvent vu le Christ, disait-il.
C'est ce que dit Eusèbe.
C'est pour ça qu'on pourrait presque dire que comme il l'a vu en vision, il l'a presque vu en vrai, donc voilà, il est presque apôtre.
Oui.
Et là, on retombe dans le comme si, quasi, presque. Et voilà, dans toute cette inspiration.
Et des rêves, Eusèbe parle de rêves, de visions de rêves ou d'apparitions réelles, en même temps qu'il dit à Constantin qu'il est un quasi-prêtre.
Alors, vous avez aussi participé à cette grande entreprise dirigée par M. André Vaucher de l'Académie d'inscriptions et belles-lettres, l'histoire du christianisme, et l'on vous doit particulièrement le tome 4 consacré aux évêques, aux moines et aux empereurs du 7e au 11e siècle, c'est-à-dire, je suppose, toute la civilisation byzantine. Et « Empereur et prêtre » aussi, qui est votre livre paru chez Gallimard pour comprendre le césaropapisme byzantin. Et enfin, plus récemment, en l'an 2000, vous avez publié « L'organisation et le déroulement des courses » d'après le livre des cérémonies. Alors, c'est quoi le livre des cérémonies ?
Le livre des cérémonies est une compilation de protocoles de cérémonies. C'est un peu ardu. Et parmi les chapitres, il y en a cinq qui concernent l'hippodrome et qui sont très compliqués parce que très difficiles à comprendre parce que ça s'adresse à des gens qui savent de quoi il s'agit, qui n'hésitent pas sur la signification des termes techniques pour savoir comment on tire au sort les boxes de départ, etc. Et c'est évidemment de grande importance que ce calendrier hippique qui chevauche avec le calendrier chrétien.
C'est écrit en latin, en grec en...
Non, c'est écrit en grec du Xe siècle, enfin, sauf pour les chapitres qui sont antérieurs et qui ont été pris dans cette compilation. Mais vous avez raison de parler de latin, car le nombre de mots latins à peine grécisés qu'on trouve dans cet ouvrage et dans la langue courante de l'époque est considérable.
C'est aussi une indication intéressante, certainement. En tout cas, toutes les références bibliographiques des ouvrages de Gilbert Dagron seront indiquées en détail sur notre site Internet. Je voudrais aussi donner deux autres précisions que les éditions du CERF ont récemment republiées. Eusèbe de Césarée, son histoire ecclésiastique et ses louanges de Constantin dans la collection Sagesse chrétienne et Sources chrétiennes. Il y a une petite différence entre ces deux collections. La collection Sources donnant le texte en grec ou en latin, mais souvent en grec aussi, que Canal Académie a consacré une émission entière à cette collection Sources chrétiennes avec son directeur Jean-Noël Guinaud. C'est une émission qui est disponible dans notre médiathèque. Et enfin, il me reste à vous remercier, Monsieur Dagron, d'être venu jusqu'au studio de Canal Académie, nous ouvrir peut-être la voie pour parler d'autres époques de cette civilisation byzantine, et en vous remerciant infiniment des précisions que vous avez bien voulu nous donner pour nous aider à comprendre et à mieux découvrir cette difficile époque complexe, cette époque politique. Merci
d'avoir
infiniment.
D'avoir participé à votre cycle, je crois, qui concerne mon académie.
Merci beaucoup.